RFI Midi, Anne Cantner.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris. RFI Midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux partout dans le monde. Et à la une aujourd'hui, 28 janvier, des tirs encore, de fortes détonations à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises, contrôlent plusieurs pans de la ville et il y a des affrontements vers l'aéroport avec les militaires congolais et leurs alliés. Difficile de savoir exactement qui contrôle quoi. La situation est mouvante et confuse.
Le peuple est en colère, je pense. Il est vraiment en colère. Il est triste, il est déçu, mais il est impuissant face à tout ça. Et la population a peur. Le peuple a absolument peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend devant. Et voilà, c'est triste, c'est triste.
Témoignage et point complet sur la situation dans Afrique Midi à midi et demi temps universel. Au sommaire également le retour de centaines de milliers de Palestiniens dans le nord de Gaza, dans une zone du territoire dont il ne reste rien, ou presque. Et pourtant, ce retour est une fête pour les habitants.
Tous les mots de la langue arabe ne suffiraient pas à exprimer ce que je ressens. Nous revenons à Gaza. Jamais nous ne renoncerons à notre terre. Le peuple palestinien a le droit de vivre ici, sous ce beau soleil.
Et maintenant, comment vivre sans eau, sans électricité, sans soins ? Comment faire pour que l'aide humanitaire arrive jusque-là, malgré les routes défoncées ? Comment reconstruire ? Nous poserons ces questions à notre invitée, coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza. Entretien dans 3 quarts d'heure maintenant. L'actualité en Europe durant la prochaine demi-heure. Nous appellerons notre correspondant à Belgrade, où le Premier ministre vient d'annoncer sa démission. Miloš Vučević, contraint au départ par le mouvement de contestation qui dure depuis 3 mois, depuis l'effondrement meurtrier du toit d'une gare. Et puis à partir de 13h, temps universel, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Dossier notamment à suivre sur le Dodge, ce département créé par le nouveau président américain Donald Trump, afin de couper drastiquement dans les dépenses publiques. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
Et on prend donc d'abord la direction de la Serbie. 3 mois de manifestations contre la corruption, contre l'incompétence du pouvoir après l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad. Depuis ce drame qui avait causé la mort de 15 personnes en novembre, la tension n'a jamais cessé de monter jusqu'à un rassemblement monstre hier et cette nuit à Belgrade. Bonjour Laurent Rouy.
Bonjour.
Correspondant dans la capitale serbe, où au lendemain de cette nouvelle mobilisation, le Premier ministre annonce sa démission.
Alors effectivement, le Premier ministre Miloš Vučević, mais aussi le maire de Novi Sad, Milan Djuric, viennent de démissionner de leurs fonctions. Raison avancée par le Premier ministre, les violences, des violences lors d'une des 150 manifestations anticorruption et anti-gouvernement qui ont secoué hier le pays. Alors c'était notamment la manifestation de Novi Sad, deuxième ville du pays. Deux groupes distincts d'agresseurs soupçonnés d'appartenir au parti au pouvoir ont attaqué des étudiants protestataires. Une étudiante agressée à la batte de baseball est aux urgences. Et c'est pour arrêter le cycle de la violence, dit le Premier ministre, lui-même originaire de Novi Sad, qu'il démissionne. Alors il faut bien préciser que sur la trentaine d'incidents violents depuis le début des protestations, certains incidents ayant été graves, aucun n'a été le fait des manifestants qui sont toujours restés non violents. Au contraire, les divers auteurs, quand ils ont été identifiés, étaient souvent des soutiens du pouvoir, voire des membres éminents du parti du président Vučić.
Alors cette démission, Laurent, marque-t-elle la fin du pouvoir du président Vučić ?
Alors effectivement, on peut se le demander, mais il y a des nuances de taille. Notons tout de même que le temps que le Premier ministre n'est pas remplacé, il reste en fonction pour les affaires courantes. Or, l'opposition réclamait justement un gouvernement technique pour organiser des élections. Rappelons aussi que hier, le président Aleksandar Vučić annonçait sous la pression de la rue un remaniement ministériel avec le changement d'au moins la moitié du gouvernement, tandis que la présidente du Parlement évoquait un vote de confiance pour son propre poste. Or, ce matin, des députés d'opposition ont été empêchés physiquement d'entrer au Parlement, alors que le vote de confiance semble reporté. N'oublions pas que le président Aleksandar Vučić, qui est un populiste, qui n'a jamais hésité à prendre de très larges libertés avec les règles démocratiques, reste encore au pouvoir. Les manifestants Les manifestants sont toujours dans la rue. La crise n'est pas terminée.
Laurent Rouy, correspondant en direct de Belgrade, où il est midi et 35 minutes. Une heure de plus à Kiev. L'actualité en Ukraine et les forces russes qui revendiquent la prise d'un nouveau village dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv, ce qui leur permet de se rapprocher de la ville de Kupiansk. L'armée est en grande difficulté sur le front. Et les récentes décisions du nouveau président américain ne font que renforcer les inquiétudes sur l'avenir de la guerre et sur le quotidien des Ukrainiens. Parce que Donald Trump a suspendu pour 3 mois les programmes de USAID et cela va peser sur l'Ukraine. Les États-Unis sont le principal contributeur de l'aide au développement, 5 milliards de dollars, et de l'aide humanitaire, un peu plus de 2 milliards et demi qui arrivent dans le pays. Emmanuel Chaz, vous êtes notre correspondante à Kiev. Qui est concerné par ces coupes ?
Alors, ça va avoir des conséquences qui sont directes, qui sont immédiates pour beaucoup de secteurs et d'initiatives qui sont financées par USAID. Alors, ça affecte la sécurité énergétique, notamment via le financement de générateurs, la santé avec la prise en charge de médicaments, de soins, les sphères sociales, culturelles, le bon fonctionnement de l'État et les réformes en cours, les médias indépendants également, bref. Tous les secteurs sont touchés. Côté humanitaire, les déplacés internes qui sont soutenus par les programmes USAID seront impactés. Les vétérans aussi. Par exemple, l'ONG Veteran Hub, qui œuvre à la réintégration des vétérans dans la société ukrainienne, a déjà annoncé que ses bureaux de Vinnytsia allaient fermer. Le média d'investigation BIOS est aussi affecté. Il était partiellement financé par USAID. Il appelle d'ailleurs déjà aux donations pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc ici, on n'a pas besoin d'attendre 80 jours pour comprendre que ses conséquences humanitaires et sociales sont déjà très lourdes.
Et comment les autorités réagissent-elles ?
Alors, dans un premier temps, il y avait l'espoir d'une exemption de suspension pour l'Ukraine. Le 25 janvier, Volodymyr Zelensky avait précisé que ces suspensions s'appliquaient à l'aide humanitaire et non pas militaire, essayant ainsi de rassurer un peu l'opinion publique. Mais on attend encore des réactions du gouvernement. Et tout comme USAID et l'ambassade américaine ici à Kiev, qui reste silencieux, on voit que chacun fait preuve de beaucoup de prudence, s'abstient de commenter, mais on se doute que les discussions sont extrêmement intenses entre les deux gouvernements. On devrait en savoir plus dans les heures, dans les jours qui suivent.
Emmanuel Chaz, en direct de la capitale ukrainienne, le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis pose de très nombreuses questions sur l'avenir de ce conflit en Ukraine. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler l'ancien ministre des Affaires étrangères en poste de 2020 à 2024. Dmytro Kuleba répond à Anastasia Becchio.
Dmytro Kuleba, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on reparle de plus en plus de négociations de paix. Vladimir Poutine s'est dit prêt à discuter avec Donald Trump, mais le Kremlin précise quand même qu'il dit attendre des signaux des États-Unis sur une éventuelle rencontre entre les présidents russes et américains. Volodymyr Zelensky a réagi en mettant en garde contre une exclusion de l'Ukraine des négociations. Pensez-vous qu'il y aura bientôt des négociations ?
I don't think that real negotiations will begin soon.
Je ne pense pas que les véritables négociations commenceront bientôt. Du moins, si nous imaginons une table où 3 ou 4 ou je ne sais combien de dirigeants s'assoient ensemble et trouvent des solutions. Il y a déjà un échange actif de messages sur les négociations entre Washington, Moscou et Kiev. En ce sens, nous pouvons conclure que les discussions sur la façon dont la guerre doit se terminer ont déjà débuté. Mais il ne s'agit pas de négociations en bonne et due forme telles que nous les imaginons habituellement. Le problème est que dire que l'on est prêt à discuter est une chose, mais parvenir à un accord en est une autre. Et si toutes les parties indiquent qu'elles sont prêtes à discuter, nous sommes encore loin d'un quelconque accord.
Comment les Ukrainiens appréhendent-ils la présidence Trump ?
S'agissant de Trump, je pense que les Ukrainiens ont les mêmes sentiments que le reste du monde, sauf que les enjeux sont beaucoup plus élevés pour nous. Nos sentiments sont mitigés. D'un côté, nous voyons cela comme une opportunité. De l'autre, nous savons que Donald Trump est un homme politique qui peut changer radicalement de position à tout moment. C'est donc vraiment l'art de la diplomatie qui va entrer en jeu et qui, espérons-le, maintiendra Trump sur la bonne voie et l'aidera à rétablir une paix juste en Ukraine.
Ces discussions autour d'éventuels pourparlers interviennent à un moment difficile pour l'Ukraine sur le champ de bataille. L'armée a cédé du terrain, les troupes russes sont aux portes de la région de Dnipropetrovsk. De ce point de vue, la Russie ne semble pas avoir de raison d'arrêter la guerre. Est-elle vraiment disposée, selon vous, à parler de paix ou d'arrêt des combats ?
Non.
À ce stade, Poutine pense qu'il va l'emporter à la fois sur l'Ukraine et sur l'Occident. Il pense que l'Occident vacillera et qu'il pourra s'emparer de toute l'Ukraine. C'est son rêve. Poutine ne sera donc prêt à négocier et à faire des concessions que lorsqu'il se sentira faible. Et cela dépend de deux sujets. Le premier, c'est la situation sur le champ de bataille. Et le second, c'est la situation économique de la Russie. S'il sent qu'il peut tenir et qu'il a une stabilité dans ces deux domaines, alors il continuera à se battre.
En 3 ans de guerre, l'Occident a franchi à plusieurs reprises les lignes rouges de la Russie en donnant des armes à l'Ukraine. Mais il a également limité son aide militaire par crainte d'une escalade du conflit. Pensez-vous qu'il existe encore cette peur de l'escalade ou plus généralement une peur de la Russie de la part de certains partenaires occidentaux ?
Oui, c'est le cas. S'il n'y avait pas de crainte d'escalade ou de peur de la Russie, cette guerre aurait déjà pris fin. Je dirais même que cette guerre n'aurait pas commencé s'il n'y avait pas eu de crainte de la Russie. Poutine a attaqué uniquement parce qu'il était sûr que l'Europe et les États-Unis avaient peur de lui, qu'il n'allait pas réagir, qu'il n'allait pas apporter de soutien à l'Ukraine et qu'il écraserait l'Ukraine assez rapidement. Aucun autre concept n'a infligé plus de dégâts à l'Ukraine que le concept de non-escalade. La non-escalade ne fonctionne que si, de l'autre côté, vous avez un adversaire qui est sensible et qui réagit à vos gestes de non-escalade. Par exemple, vous dites « je ne vais pas faire ceci » et vous arrêtez votre offensive. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que l'Occident a fait savoir à la Russie que nous ne ferions pas cela. Et vous devriez également ralentir. Mais Poutine n'a pas ralenti une seule seconde. Il n'a jamais rendu l'appareil à la politique de non-escalade alors que l'Occident continuait à suivre cette voie, ce qui a entraîné de lourdes pertes. Et de nombreuses personnes en Ukraine sont mortes uniquement parce que la politique de non-escalade a été entretenue par les grandes capitales.
Le Kremlin et l'administration américaine semblent être d'accord sur un point. L'Ukraine ne devrait pas rejoindre l'OTAN, du moins dans un avenir proche. Y a-t-il matière à négociation sur ce sujet en Ukraine ? Que pensez-vous de la proposition de suspendre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour parvenir à la paix ?
It means that Trump will concede NATO membership, Ukraine's NATO membership to Putin.
Cela signifie que Trump concédera à Poutine la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme un prix à payer pour arrêter la guerre. La guerre s'arrêtera, mais tant que l'Ukraine ne fera pas partie d'un mécanisme de sécurité collective tel que l'OTAN, une prochaine guerre éclatera dans quelques années. Poutine lutte contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN non pas parce qu'elle représente une menace pour la Russie, mais parce qu'il veut que l'Ukraine reste exposée et vulnérable à son agression, parce qu'il n'abandonnera jamais l'idée de détruire l'Ukraine en tant qu'État. Il est obsédé par cette idée, et c'est son objectif. L'OTAN est donc le seul moyen de s'assurer qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre entre l'Ukraine et la Russie.
NATO is basically the only way to ensure there won't be another war between Ukraine and Russia.
L'Ukraine est sur le point d'entrer dans la 4e année de la guerre. Des voix s'élèvent pour réclamer des concessions territoriales. Qu'est-ce qui serait possible sur ce sujet pour l'Ukraine et le peuple ukrainien ?
Tous ceux qui réclament de l'Ukraine qu'elle fasse des concessions territoriales devraient d'abord céder une partie de leurs terres et montrer l'exemple. Si vous ne l'avez pas fait vous-même, taisez-vous et suivez les discussions. Parce qu'il est très facile de décider du sort de quelqu'un d'autre, mais mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre et vous arriverez à des conclusions et à des approches des négociations complètement différentes.
Completely different, opposite conclusions and approaches to negotiations.
Y a-t-il un risque que l'Ukraine se retrouve dans une situation où d'autres décident de son sort ?
It's not going to happen.
Cela n'arrivera pas. C'est un vieux cliché de penser que Poutine va s'asseoir avec Trump ou avec quelqu'un d'autre, qu'ils vont décider du destin de l'Ukraine et qu'ils vont obliger l'Ukraine à faire face à la réalité. L'Ukraine se bat contre la Russie depuis 3 ans maintenant, avec toutes les difficultés, les pertes et les tragédies qui se sont produites. Nous sommes un pays viable qui se bat sans troupes étrangères sur le terrain. Nous avons le droit et la capacité de faire entendre notre voix et il en sera ainsi.
And we have the right and capacity to make our voice heard. And so it will be.
Thank you.
Thank you.
Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères en Ukraine de 2020 à 2024, il répondait à Anastasia Becchio. Autre dossier qui inquiète en Europe depuis que Donald Trump a retrouvé la Maison Blanche, ce sont les ambitions impérialistes du nouveau président américain. On en a parlé ici déjà, il souhaite prendre le contrôle du Groenland, qu'il juge essentiel à la sécurité de son pays. Et il faut dire qu'effectivement, cette île de l'océan Arctique est située à un emplacement stratégique, car le réchauffement climatique est en train d'ouvrir de nouvelles routes maritimes, d'une part, et d'autre part, la fonte des glaces rend accessibles d'immenses ressources minières, Otilia Ferré.
Quand on survole le Groenland en avion, on aperçoit des étendues de glace à l'infini. Et pour cause, une gigantesque calotte glaciaire recouvre 80% du territoire. Alors que peut bien vouloir Trump de cette immense terre gelée ? Kupanuk, Inuit et ingénieur minière, a son explication.
La raison pour laquelle il dit qu'il veut acheter le Groenland et que son fils visite le Groenland, c'est juste pour montrer qu'il est là. C'est juste une manière politique et tactique d'éloigner la Chine et la Russie du Groenland en déclarant « Je suis ici, c'est mon territoire ». I am here. This
is my territory. Donald Trump le sait bien. Sous ces épaisses couches de neige et de glace repose un petit trésor géologique sur le point d'être révélé au monde, car au Groenland, la glace fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80. Kupanuk, qui a aussi travaillé pour le ministère des Ressources minérales pendant 5 ans, connaît la valeur de ces richesses enfouies et aujourd'hui inexploitées. We have a lot of
minerals. Nous avons beaucoup de minéraux. Le Groenland est comme un paradis pour les géologues. Nous avons des terres rares, nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons des diamants, des rubis, du titane, du zinc, du plomb. Sérieusement, nous avons de tout. Mais en raison de la localisation du Groenland dans l'Arctique, du manque d'infrastructures et du manque de main-d'œuvre, il est très coûteux d'exercer des activités minières au Groenland. À l'heure actuelle, on peut extraire les mêmes minéraux dans d'autres endroits du monde. Mais je crois vraiment que le Groenland dispose d'un grand potentiel minier dans le futur.
Ce jour-là, c'est journée porte ouverte à l'Institut des ressources naturelles du Groenland. Les habitants viennent en famille pour découvrir et apprendre davantage sur les ressources de leur terre. Beaucoup veulent parler avec Maaike Nyhuus-Poulsen, première géologue groenlandaise. Devant elle sont exposées des dizaines de roches différentes. Elle en pioche une multicolore.
Ça, c'est une terre rare, par exemple. Elle vient d'un des plus gros gisements que nous possédons dans le sud du Groenland. C'est l'un des plus grands au monde.
Ce minéral est indispensable à la transition écologique enclenchée par de nombreux pays dans le monde. Il est utilisé dans la fabrication de toutes sortes d'appareils électroniques de notre quotidien, notamment les fameuses voitures électriques d'Elon Musk.
Tu vois le minéral rouge ici ? Il faut le dilater, il faut l'écraser puis retirer les minéraux blancs et noirs autour pour ne garder que les rouges et après il faut les plonger dans de nombreux acides différents et il faut une centrale capable d'extraire les différents éléments. Le problème, c'est que l'Europe veut vraiment ces éléments. L'Europe est friande de ces éléments sur lesquels la Chine est actuellement assise. L'Europe et d'autres pays sont à la recherche d'un endroit pour l'exploitation minière.
En 2021, le Groenland a interdit l'exploration pétrolière sur son territoire pour des raisons écologiques. L'écologie qui est au cœur des préoccupations des opposants à l'exploration minière. Il est donc très difficile d'estimer à l'heure actuelle l'importance des ressources, en gaz par exemple, mais elles sont bien réelles. Maaike en détient la preuve entre ses mains.
Sur cette roche, on peut voir des traces de pétrole. C'est par ces bulles de gaz ici que le pétrole suinte. Beaucoup de gisements sont sous la glace, donc si la glace se met à fondre, beaucoup de minéraux seront exposés et plus faciles à extraire.
Et c'est pour cela que le Groenland, terre gelée, est aujourd'hui devenu terre de conquête. Au centre de recherche arctique ce jour-là, on trouve aussi Penelope Ruthau, glaciologue et climatologue. Devant elle, une carte du Groenland sur laquelle elle pointe la face nord-ouest du territoire. C'est cette zone précise qui intéresse également Donald Trump. Avec la fonte des glaces, ce passage au nord du Canada, infranchissable il y a encore quelques années, commence à devenir accessible durant la courte période de l'été entre fin juillet et mi-septembre.
Le passage s'ouvre et se referme. C'est très inquiétant pour le climat, mais aussi pour la sécurité dans l'Arctique. On a tout d'un coup un passage ouvert à travers l'Arctique. Ça ouvre beaucoup de possibilités, mais ça remet aussi en cause la sécurité. Les prédictions disent que d'ici 2100, il n'y aura plus aucune mer de glace ici. Ça veut dire que tout le monde pourra transporter par ici n'importe quoi. Politiquement, on parle beaucoup de la connexion avec la Russie.
La Russie et la Chine manifestent des intérêts croissants pour l'Arctique. Les deux pays construisent de plus en plus d'infrastructures et investissent dans des projets miniers. Contrôler ce nouveau passage maritime ainsi que le territoire tout entier serait donc un moyen pour les États-Unis de contrer ces deux grandes puissances. Un moyen aussi d'assurer ses arrières militaires et de protéger la base américaine de Thule, cruciale pour la surveillance et haut lieu de sécurité avec des systèmes de défense antimissile. Otilia Ferré, de retour de Nuuk, Groenland, RFI.
Et cette question du Groenland a été évoquée par le chancelier allemand et son homologue danoise. Tous les deux se sont rencontrés à Berlin tout à l'heure. Olaf Scholz a affirmé que les frontières ne devaient pas être modifiées par la force.
RFI Midi, Anne Cantner.
Un coup d'œil à la presse européenne, la campagne électorale en Allemagne justement. Nous sommes à moins d'un mois des législatives anticipées. La politique migratoire occupe une grande partie des débats et le Süddeutsche Zeitung révèle que pour la première fois, les conservateurs ont défendu l'idée d'un durcissement des conditions d'asile avec les partis d'extrême droite AfD et BSW qui devraient réaliser des scores inédits le 23 février. Un pays sans budget, je ne parle pas de la France, mais de l'Espagne qui risque une paralysie à plusieurs niveaux de l'État, national, régional et municipal. El País s'en désole. Le blocage des comptes publics de l'État et de 7 régions autonomes ne nuira pas à l'économie, dit le journal. Mais c'est une défaite politique. Et puis The Independent se fait l'écho d'un rapport confidentiel du ministère britannique de l'Intérieur. Il nous apprend que la misogynie et les violences contre les femmes sont de premiers pas, des voies d'accès vers des opinions extrémistes. Le rapport invite d'ailleurs les autorités à se pencher sur ce qu'il appelle une manosphère, une contre-culture masculiniste en ligne. Des messages qui véhiculent des propos de désinformation ou encore des idées racistes. Notre monde de tech avec Sophie Malibaud. On parlait tout à l'heure des conséquences des décisions de Donald Trump, de ses ambitions. Ça concerne aussi la tech, parce que l'avenir de la commission chargée de veiller à la protection des données n'est pas vraiment garanti. Et ça, c'est aussi un problème pour l'Europe, Sophie.
Oui, alors la commission de supervision de la vie privée et des libertés civiles a plus de deux décennies d'existence. Sa mise en place remonte à 2004, après l'adoption du Patriot Act au lendemain du 11 septembre. Il s'agissait d'avoir un organe capable de garantir le respect de la vie privée et des libertés civiles lors de l'élaboration de toute une série de lois et réglementations justifiées par la lutte antiterroriste. Cette commission créée au sein de l'exécutif avait acquis son indépendance vis-à-vis de l'exécutif au fil du temps. Grâce à un système de nomination bipartisan, c'était devenu une vigie censée éviter les abus potentiels en matière de cybersurveillance, un garde-fou contre l'exploitation des données personnelles.
Et qu'est-ce qu'il est advenu de cette agence avec l'élection de Donald Trump ?
Eh bien, à ce jour, le dispositif a été rendu inopérant. Dès les premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, certains membres de la commission, les démocrates tout particulièrement, ont reçu un courrier de la nouvelle administration leur demandant de prendre la porte. Une seule personne occupe désormais ce bureau, devenu de facto dysfonctionnel. Officiellement, l'administration n'a pas mis fin à son existence, mais la commission n'est plus en mesure de travailler, apparemment. Rien n'empêche, d'ailleurs, le nouveau président de s'en débarrasser ou d'en faire à terme un instrument de sa propre politique en y plaçant des fidèles.
Et alors, de quelle manière est-ce que ça pourrait affecter le commerce transatlantique et donc potentiellement l'Europe ?
Alors, il faut savoir qu'en vertu d'un accord conclu en 2023 entre les États-Unis et l'Union européenne, les entreprises pouvaient bénéficier d'un cadre transatlantique de protection des données aux normes alignées sur celles en vigueur dans l'UE. La commission de supervision de la vie privée et des libertés publiques devait garantir le respect de ce cadre. En cas d'abus de la part de l'administration américaine, les entreprises de l'Union européenne, commerçantes avec les États-Unis, avaient ainsi une chance de pouvoir se faire entendre. Si l'accord transatlantique de protection des données devenait caduc, de sérieuses questions se poseraient sur la sécurité des données européennes hébergées aux États-Unis. Sachant que 80% des données européennes sont sur des serveurs étrangers, principalement américains, ce grain de sable dans les rouages de la cybersécurité aux États-Unis pourrait avoir un impact non négligeable sur le commerce transatlantique.
En fait, l'abandon de cet organe bipartisan, c'est un exemple parmi d'autres, hein, Sophie, qui illustre la polarisation de la société américaine.
Oui, tout à fait. Cela souligne aussi la volonté de la nouvelle administration de déréguler et de faire des économies. Joe Biden avait mis sur la table le besoin de règles. Il s'agissait notamment de pousser les acteurs du numérique, les grandes plateformes, à prendre leur part du fardeau et ne pas tout laisser reposer sur le dos des utilisateurs. Donald Trump et surtout Elon Musk lui-même, juge et partie dans l'affaire, s'opposent radicalement à ces principes.
Sophie Malibaud pour notre monde de tech. Rencontre avec une artiste, Mounia Oroseman, qui expose en ce moment une vingtaine de toiles à Dakar. Des peintures comme un lien entre l'île française de la Martinique, dont elle est originaire, et le Sénégal qu'elle a découvert plus tard, durant ses années de mannequinat. Entretien au micro de notre correspondant, Gwendal Lavina.
Bonjour Mounia.
Bonjour.
Vous exposez à Dakar des peintures dans Retour à l'autre, traversée, symbolique, martigalée. Que signifie martigalée ?
Martigalée signifie tout simplement Martinique, Sénégal. Ce mot, ce nom me vient grâce à une très bonne amie qui s'appelle Muriel Wiltor, qui est sénégalaise, née ici. Et une partie d'elle est martiniquaise. Et elle a inventé ce mot que je trouve tout à fait approprié à ma nouvelle collection d'œuvres.
Pourquoi ? Que signifie cette rencontre entre la Martinique et le Sénégal pour vous ?
Ça me vient tout à fait à l'esprit, le président Senghor et bien sûr notre père, notre ami, notre, je dirais presque Dieu, Aimé Césaire. Il ne faut pas oublier qu'Aimé Césaire était très ami à Senghor. Ils étaient comme des frères. Comme je savais que je venais à Dakar, j'ai choisi un thème qui représente vraiment mes ancêtres, c'est-à-dire les Noirs, les Africains. Je viens de là. Je suis métissée, Italie, Martiniquaise, de par ma mère, ainsi que même Viette. C'est un mélange incroyable, les Antilles. Mais je ne pourrais pas ne pas vous parler de l'Afrique. L'Afrique, c'est moi. Les Antilles, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est les Antilles. Enfin, vraiment, ça devient un monde.
C'est donc un pont entre ces deux civilisations qui n'en sont qu'une, si on vous écoute, que vous proposez à travers ces peintures ?
Tout à fait. C'est vraiment l'amour que nous avons de nous ressembler quelque part. Et dans mon travail de peinture pour cette collection-là, il y a la marchande de Saint-Louis. Et on voit une femme avec sa charge sur la tête. Et tout ça me vient de très loin. Parce que ma première fois au Sénégal, ça a été avec le magazine Vogue. Et là, j'étais agréablement surprise de voir ces marchandes qui portaient leur genre de panier ou de torche et qui portaient comme ça avec les seins bien en évidence, avec un port exemplaire, un port de mannequin.
Justement, le monde vous connaît surtout pour votre carrière de top modèle à partir des années 80. Vous avez été l'une des premières mannequins noires repérées par Givenchy, puis devenue une égérie, muse d'Yves Saint-Laurent. Qu'avez-vous retiré de cette expérience ?
La rigueur, en même temps beaucoup d'amour de ce monsieur, de ce monument qu'est Yves Saint-Laurent. Parce que c'est Yves Saint-Laurent qui m'a propulsé dans le monde de la haute couture. À l'époque, ça n'existait pas.
C'est aussi un parcours qui vous a mené partout dans le monde, dans toutes les grandes capitales, tous les podiums. Est-ce que votre art aujourd'hui reflète ça ? Tout ce que vous avez croisé ?
Tout à fait. Mon art représente vraiment tous les pays que j'ai pu côtoyer, même pour 2 jours. J'ai vu des couleurs et je suis une coloriste, vraiment, les couleurs. Même dans mon côté sombre par moment, il y a toujours la lumière. Je traite vraiment les lumières d'une certaine façon à moi.
Merci beaucoup, Mounia.
Oh, merci, chère Ravi.
Mounia Oroseman au micro de Gwendal Lavina. Si vous êtes à Dakar et que vous avez envie de découvrir ses œuvres, vous avez jusqu'au 9 février pour les voir à la galerie 14-8.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner.
Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera l'heure d'Afrique Midi et vous nous parlerez tout à l'heure
de la situation en République démocratique du Congo après l'entrée dans Goma de combattants du M23 et de soldats rwandais. À Kinshasa, des rassemblements populaires de protestation ont dégénéré ce matin. Les manifestants se sont concentrés devant plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis, de la France ou de la Belgique, qui ont été attaquées, certaines pillées. Sur place à Goma, d'intenses échanges de tirs ont été entendus dans la matinée dans la ville. Un millier de réfugiés ont traversé la frontière vers Gisenyi. Les hôpitaux sont débordés. Il y a beaucoup de morts, dit l'ONU.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. On vous retrouve à 12h30, temps universel. Dans une minute maintenant, le journal, toute l'actualité internationale. On parlera notamment du retour des déplacés à Gaza. On parlera aussi évidemment de la situation en République démocratique du Congo. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Maureen. Papito fait plus fort, méchant corps à corps. Make it chop, on nous fait sport. Papito qui est calor, dans la ventador. Oui, t'en veux encore, encore, encore. C'est clean, faut tout manger. Six o'clock, baby, la faut dégager.
Me gusta tu onda, la manera que piensa. Somos diferentes, pero no miente la ciencia. Lo opuesto se atraen y crean aventuras.
buena onda loco. RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradon.
Disparu prématurément il y a 30 ans, Jean-Luc Lagarce est l'un des auteurs du théâtre français le plus doué, le plus joué. Pour cet anniversaire, Joanie Berthe recrée juste la fin du monde, sa pièce culte, un huis clos familial fait de silence et de non-dit, de peur et de retrouvailles.
De vive voix, avec Pascal Paradon, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.